Chapitre 4. Le faux pas. Ah bien, monsieur Eugène, dit Sylvie. Aujourd'hui, vous allez déjeuner avec tout le monde. L'étudiant salua les pensionnaires et s'assit auprès du père Goriot. Il vient de m'arriver une singulière aventure, dit-il.
Une aventure, dit Poiret.
Eh bien, pourquoi vous en étonneriez-vous, vieux chapeau, dit Vautrin à Poiret. Monsieur est bien fait pour en avoir. Mademoiselle Taillefer leva timidement la tête et regarda le jeune étudiant.
« Dites-nous votre aventure, » demanda Madame Vauquer.
« Hier, j'étais au bal chez Madame la Vicomtesse de Beauséant, une cousine à moi qui nous a donné une fête superbe, où je me suis amusé comme un roi.
« Tolé, » dit Vautrin, en interrompant net.
« Monsieur, » reprit vivement Eugène, « que voulez-vous dire ?»«
Je dis tolé, parce que les rois tolés s'amusent beaucoup plus que les rois. »«
C'est vrai. » J'aimerais mieux être ce petit oiseau sans souci que roi, dit Poiret, parce que... Enfin, reprit l'étudiant en lui coupant la parole, je danse avec une des plus belles femmes du bal, une comtesse ravissante, la plus délicieuse créature que j'ai jamais vue. Eh bien, ce matin, j'ai rencontré cette divine comtesse sur les 9 heures à pied rue des Grès. Oh, le cœur m'a battu, je me figurais qu'elle venait ici, dit Vautrin, en jetant un regard profond à l'étudiant. Elle allait plutôt chez le papa Gobseck, un usurier. Votre comtesse se nomme Anastasie de Resto et demeure rue du Helder. À ce nom, l'étudiant regarda fixement Vautrin. Le père Goriot leva brusquement la tête.
Ah ! S'écria douloureusement Goriot. Elle y est allée, la pauvre. J'aurais dû envoyer Christophe plus tôt.
J'ai deviné, dit Vautrin en se penchant à l'oreille de Madame Vauquer. Troublé, Goriot mangeait machinalement et sans savoir ce qu'il mangeait. Jamais il n'avait semblé plus stupide et plus absorbé qu'il ne l'était en ce moment.
« Qui diable, monsieur Vautrin, a pu vous dire son nom ?» demanda Eugène.
« Ah ah, voilà !» répondit Vautrin. « Le père Goriot le savait bien, lui. Pourquoi ne le saurais-je pas ?»«
Elle était donc bien belle hier ?»
demanda le pauvre vieillard en regardant Rastignac.
« Qui ?»«
Mais madame de Resto. »
« Voyez-vous le vieux Grigou, » dit Madame Vauquer à Vautrin, « comme ses yeux s'allument. »«
Oh oui, elle était furieusement belle, » reprit Eugène, que le père Goriot regardait avidement. « Elle dansait toutes les contredanses, les autres femmes enragées. Si une créature a été heureuse hier, c'était bien elle. »«
Hier, en haut de la roue, chez une duchesse, » dit Vautrin. « Ce matin, en bas de l'échelle, chez un usurier. » Voilà les Parisiennes. Si leurs maris ne peuvent entretenir leur luxe effréné, elles se vendent.
Le visage du père Goriot devint sombre à cette cruelle observation.
Eh bien, dit Madame Vauquer, racontez-nous votre aventure. Lui avez-vous parlé?
Elle ne m'a pas vu, dit Eugène. Mais rencontrer une des plus jolies femmes de Paris, rue des Grès, à 9 heures, une femme qui a dû rentrer du bal à 2 heures du matin, n'est-ce pas singulier?
« Il n'y a que Paris pour ces aventures-là. »«
Bah, il y en a de bien plus drôles !» s'écria Vautrin. Mademoiselle Taillefer avait à peine écouté, tant elle était préoccupée. L'idée de rencontrer ce père qui l'avait renié la terrorisait. Sur un geste de Madame Couture, elle se leva de table. Les deux femmes quittèrent la salle à manger, suivies du père Goriot.
« Vous voyez bien !» dit Madame Vauquer à Vautrin et à ses autres pensionnaires.
« Il est clair qu'il s'est ruiné pour ces femmes-là !»
« Jamais on ne me fera croire, » s'écria l'étudiant, « que la belle comtesse de Resto appartient au père Goriot. »
« Mais, » lui dit Vautrin en l'interrompant, « nous ne tenons pas à vous le faire croire. Vous êtes encore trop jeune pour bien connaître Paris. Vous saurez plus tard qu'il s'y rencontre ce que nous nommons des hommes à passion. Le père Goriot est un de ces gens-là. Il a porté ce matin du vermeil à la fonte et je l'ai vu entrant chez le papa Gobseck, rue des Grès. En revenant, il a envoyé chez la comtesse de Resto ce nid de Christophe qui nous a montré l'adresse de la lettre dans laquelle était habillé Acquitté. Il est clair que si la comtesse allait aussi chez le vieil escompteur, il y avait urgence. Cela vous prouve, mon jeune étudiant, que pendant que votre comtesse riait, dansait, faisait ses singeries, balançait ses fleurs de pêcher et pinçait sa robe, elle était dans ses petits souliers, comme on dit, en pensant à ses lettres de change protestées ou à celles de son amant.
« Comment ?» s'écria Madame Vauquer. « Le père Goriot aurait fondu son déjeuner de vermeil ?»
Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. C'était un souvenir de sa défunte épouse.
« N'y avait-il pas de tourterelles sur le couvercle ?» dit Eugène.
« C'est bien cela. » Il y tenait donc beaucoup. Il a pleuré quand il a eu pétri l'écuelle et le plat. Je l'ai vu par hasard cette nuit en rentrant du bal. Voyez-vous le bonhomme, combien il est passionné, s'écria Vautrin. Cette femme-là sait lui chatouiller l'âme.
Vous me donnez une furieuse envie de savoir la vérité. J'irai tout à l'heure chez Madame de Restaud, s'écria Eugène.
Vous y trouverez peut-être le bonhomme Goriot qui viendra toucher le montant de ses galanteries.
Mais, dit Eugène avec un air de dégoût, votre pari est donc un bourbier.
Et un drôle de bourbier, reprit Vautrin. Ceux qui s'y crottent en voiture sont d'honnêtes gens. Ceux qui s'y crottent à pied sont des fripons.
Ayez le malheur de voler une pomme, vous êtes montré sur la place du palais de justice comme une curiosité.
Voler un million, vous êtes marqué dans les salons comme une vertu.
Rentré dans sa chambre, Rastignac s'habilla fort élégamment et alla, en début d'après-midi, chez Madame de Restaud. Lorsqu'il arriva rue du Helder et demanda la comtesse, il reçut le coup d'œil méprisant des gens qui l'avaient vu traversant la cour à pied. Ce coup d'œil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour, où piaffait un beau cheval richement attelé à un cabriolet flambant neuf. « Monsieur, dit le valet de chambre, madame est fort occupée. Elle ne m'a pas répondu. Mais si monsieur veut passer au salon, il y a déjà quelqu'un. » Rastignac ouvrit la porte par laquelle était sorti le valet de chambre et se retrouva dans une sorte de débarras qui menait à l'office. Les rires étouffés qu'il entendit dans l'antichambre mirent le comble à sa confusion. Il sortit horriblement gêné. « Monsieur, le salon est par ici, » lui dit le valet de chambre. À cet instant, tandis que le domestique le conduisait dans un premier salon, une porte s'ouvrit au fond du long corridor, et Rastignac entendit à la fois la voix de Madame de Restaud, celle du père Goriot, et le bruit d'un baiser. Dès qu'il fut dans la pièce, il se précipita à la fenêtre qui donnait sur la cour et vit le vieil homme déboucher près de la porte au moment où entrait un tilbury conduit par un homme décoré. Le père Goriot n'eut que le temps de se jeter en arrière pour n'être pas écrasé. L'homme détourna la tête d'un air de colère, regarda l'imprudent, le reconnut et lui fit, avant qu'il ne sortît, un salut forcé. Le père Goriot répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie. Ces événements se passèrent avec la rapidité de l'éclair.
« Pauvre cher Maxime, je vous ai fait attendre. » C'était la voix de la comtesse.
« Mais Maxime ?» Rastignac se retourna brusquement et vit alors un jeune homme au fond du salon. Il le reconnut immédiatement pour l'avoir rencontré la veille au bal de Madame de Beauséant. C'était le comte de Trailles. Debout près d'elle, Maxime regarda insolemment en direction d'Eugène, comme on toise un intrus. Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme. D'abord, les beaux cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles. Puis Maxime avait des bottes fines et propres, tandis que les siennes, malgré le soin qu'il avait pris en marchant, s'étaient empreintes d'une légère teinte de boue. Enfin, Maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille, tandis que Eugène avait à 2h30 un habit noir. L'étudiant savait bien qu'il gênait cet odieux Maxime, mais au risque de déplaire à Madame de Restaud, il les suivit dans un second salon. Le jeune comte se jeta dans une bergère au coin du feu, où il demeura en silence, visiblement contrarié. La jeune femme se tourna vers Eugène et lui lança un de ces regards froidement interrogatifs qui disent si bien « Pourquoi ne vous en allez-vous pas ?» Une porte s'ouvrit brusquement. Le monsieur qui conduisait le tilbury se montra soudain, sans chapeau, ne salua pas la comtesse, regarda soucieusement Eugène et tendit la main à Maxime en lui disant « Bonjour » avec une expression fraternelle qui surprit singulièrement le jeune provincial. « Monsieur de Restaud, » dit la comtesse à l'étudiant en lui montrant son mari. Eugène s'inclina profondément. « Monsieur, » dit-elle en continuant et en présentant Eugène au comte de Restaud, « est Monsieur de Rastignac, parent de Madame la Vicomtesse de Beauséant par les Marcillac et que j'ai eu le plaisir de rencontrer hier à son dernier bal. » « Parent de Madame la Vicomtesse de Beauséant par les Marcignac. » Ces mots furent d'un effet magique. Le comte quitta son air froidement cérémonieux et salua l'étudiant. « Enchanté, dit-il, monsieur, de pouvoir faire votre connaissance. Mais je croyais les Marcillac éteints. »« Oui, monsieur, répondit Eugène. Mais par mon grand-oncle, le chevalier de Rastignac, nous sommes la branche cadette, branche d'autant plus pauvre que mon grand-oncle, vice-amiral, a tout perdu au service du roi. « Monsieur, votre grand-oncle, ne commandait-il pas le Vengeur avant 1789 ?»«
Précisément. »«
Alors il a connu mon grand-père, qui commandait le Warwick. » Maxime haussa légèrement les épaules et dit tout bas à Madame de Restaud,
S'il se met à causer Marine avec celui-là, nous sommes perdus. Faites quelque chose.
Venez, Maxime, j'ai quelque chose à vous demander, dit alors la comtesse au jeune homme.
Messieurs, nous vous laisserons naviguer ensemble.
Anastasie, restez donc, ma chère, s'écria son mari avec humeur. Vous savez bien que...
Écoutez, dit Maxime, vous êtes en affaire, je ne veux pas vous gêner. Adieu.
Restez donc, Maxime, cria le comte.
Venez dîner, dit la comtesse qui, laissant Eugène et le comte, suivit Maxime dans le premier salon où ils s'attardèrent quelques instants.
Allons, mon pauvre Maxime, dit-elle enfin au jeune homme.
Il faut se résigner. À ce soir.
Savez-vous, ma chère, lui cria le comte, quand elle rentra, que la terre où demeure la famille de monsieur n'est pas loin de Verteuil, sur la Charente ? Son grand-oncle et mon grand-père se connaissaient.
Enchanté d'être en pays de connaissance, dit la comtesse distraite.
Plus que vous ne le croyez, dit à voix basse Eugène.
Comment ? Dit-elle vivement.
Mais, reprit l'étudiant, je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte-à-porte dans la même pension, le père Goriot.
À ce nom, accompagné familièrement du mot « père », le comte, qui avait pris la place de Maxime près de la cheminée, se leva d'un bond.
« Vous auriez pu dire « monsieur Goriot », s'écria-t-il.
La comtesse pâlit d'abord en voyant l'impatience de son mari. Puis elle rougit et fut évidemment embarrassée. Elle répondit d'une voix qu'elle voulut rendre naturelle et d'un air faussement dégagé.
« Il est impossible de connaître quelqu'un que nous aimions mieux. »
Eugène, devenu rouge et bêtifié par l'idée confuse qu'il eut d'avoir commis quelques lourdes sottises, aurait voulu se jeter dans un gouffre. En prononçant le nom du père Goriot, il avait donné un coup de baguette magique, mais dont l'effet était inverse de celui qui avait frappé ces mots, parents de Madame de Beauséant. Le visage de Madame de Resto était sec, froid, et ses yeux devenus indifférents fuyaient ceux du malencontreux étudiant.
« Madame, dit-il, vous avez à causer avec Monsieur de Resto. Veuillez agréer mes hommages et me permettre... »
« Toutes les fois que vous viendrez, » dit précipitamment la comtesse en arrêtant Eugène par un geste, « vous êtes sûr de nous faire, à Monsieur de Resto comme à moi, le plus vif plaisir. »
Eugène salua profondément le couple et sortit, suivi de Monsieur de Resto, qui insista pour l'accompagner jusque dans l'antichambre.
« Toutes les fois que Monsieur se présentera, » dit le comte à son domestique après que l'étudiant fut sorti, « ni Madame ni moi, nous n'y serons. »
Quand Eugène se trouva dans la rue, il était sous l'empire de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme où il est entré, comme s'il espérait y trouver une heureuse issue. Il fit signe au cocher de la première voiture libre qu'il vit passer.
« À l'hôtel de Beauséant, » dit-il.
Il avait besoin de raconter son aventure à quelqu'un. Qui mieux que Madame de Beauséant pour dissiper le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue de Goriot et de la belle Madame de Resto ?